écoutez France Culture.
Question d'éthique. Monique Canto-Sferver. Les paradoxes moraux de l'égalité. Avec Jean-Pierre Dupuis. Bonjour à tous. À l'égalité sont consacrées les émissions de France Culture ce samedi matin 24 février. Hommage conduit en partenariat avec le magazine Télérama. L'égalité, c'est la marque de fabrique, si je puis dire, des temps modernes, leur aspiration fondamentale. Que de luttes héroïques ont été menées en faveur de l'égalité. Mais le travail du philosophe consiste non seulement à donner des raisons d'admirer, mais aussi à jeter des ombres, à lever des paradoxes, à poser des questions. Car derrière l'évidence morale de la recherche de l'égalité, les perplexités demeurent. Égalité de quoi d'abord? Égalité des droits? Égalité des chances? Égalité des revenus? Égalité des sexes? Mais quoi d'autre encore? Faut-il égaliser les talents, les intelligences? Faut-il accorder des droits aux animaux, aux arbres, aux montagnes? Disons qu'il est sans doute nécessaire de s'arrêter quelque part dans la conquête de l'égalité, au point précisément où les inégalités qui subsistent sont admissibles, voire justifiées. Mais justifiées comment? Tournons-nous sans attendre vers un philosophe politique qui a traité de l'égalitarisme, du sacrifice, et qui, tout en étant spécialiste de Tocqueville, a introduit en France la philosophie politique américaine d'aujourd'hui. Jean-Pierre Dupuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un familier des émissions de France Culture sur de nombreux sujets. Vous êtes d'ailleurs déjà venu à Question d'éthique nous parler des nouvelles technologies. Mais c'est un autre pan de votre œuvre que nous allons exploiter aujourd'hui, puisque vous êtes un penseur politique et vous avez publié, il y a une quinzaine d'années environ, « Le sacrifice et l'envie, le libéralisme aux prises avec la justice sociale ». Alors une remarque d'abord, la plupart des propos consacré à l'égalité, change rapidement de sujet et on se met à parler des inégalités. Alors pourquoi? Pourquoi traite-t-on tant des inégalités et si peu des égalités? D'où vient la difficulté? Est-ce que l'analyse des inégalités suffit à définir en creux l'égalité?
Mais quand nous regardons autour de nous, nous ne voyons que du divers, de la diversité. Si nous regardons les êtres humains autour de nous, par exemple, nous voyons des vieux et des jeunes, des grands et des petits, des gras et des maigres, des riches et des pauvres, des hommes et des femmes, etc., etc. Et la chose étonnante, c'est que nous sommes amenés à décrire cette diversité ou ce divers en termes d'inégalité. Je crois qu'il y a là quelque chose de très profond qui signifie ceci, selon moi, c'est que si nous interprétons le divers en termes d'inégalité, c'est que nous avons derrière la tête, en quelque sorte, le filtre qui nous fait percevoir le divers comme inégalité, c'est un filtre normatif. Et cette norme s'appelle l'égalité. Ce qui veut dire que pour moi, l'inégalité et l'égalité se renvoient l'un à l'autre. On ne parle d'inégalité que dans une société qui est dominée par un idéal normatif qui est celui de l'égalité. Donc, inégalité et égalité, ça va ensemble.
Bon, donc on voit les inégalités, mais on réfléchit à l'égalité. C'est ce que nous allons essayer de faire. Surtout, nous concentrons sur l'égalité moderne. C'est déjà une tâche bien complexe. Il y a un texte fondateur, c'est l'œuvre de Tocqueville, La démocratie en Amérique, dont le tome 2 est publié en 1840. Et Tocqueville désignait les siècles à venir, donc les siècles où nous sommes encore, comme ceux de l'égalité. Le mouvement irrépressible en faveur de l'égalité était, disait Tocqueville, un fait providentiel, produit en partie par la Révolution française, en France en tout cas, mais évidemment pas seulement, dont les correspondants dans le monde étaient très nombreux. Donc Tocqueville parle d'égalité des conditions. Que faut-il entendre par là?
Mais vous voyez, une fois qu'on a dit ce que j'ai dit en commençant, à savoir que si on parle en termes d'inégalité, on a en tête un idéal normatif qui est celui de l'égalité, on n'a encore rien dit. Car cet idéal normatif qu'on appelle l'égalité, il a 1000 interprétations possibles, différentes, et j'espère qu'on va en examiner quelques-unes. Il y a une première distinction absolument fondamentale, qui est la distinction que nous a léguée en quelque sorte l'analyse marxiste, c'est la distinction entre l'égalité réelle et l'égalité formelle. L'égalité formelle, ou dirait un marxiste l'égalité bourgeoise, c'est l'égalité des droits, des libertés fondamentales. un marxiste va considérer que cette égalité des droits est un masque qui dissimule des inégalités réelles, qui sont des inégalités en termes de revenus, de patrimoine, d'accès aux opportunités, etc., etc. Eh bien, il y a une troisième catégorie, qui est celle, effectivement, de Tocqueville, et qui est, vous le rappeliez, l'égalité des conditions. Il faut peut-être rappeler la manière dont Tocqueville commence son ouvrage majeur de la démocratie en Amérique, ses accents extraordinaires, mais ça c'est dans le tome 1, n'est-ce pas, qui est publié en 1835. Le développement graduel de l'égalité des conditions est donc un fait providentiel. Il en a les principaux caractères, il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine, tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement. Et un peu plus loin, il dit « Le livre entier qu'on va lire, La démocratie en Amérique, a été écrit sous l'impression d'une sorte de terreur religieuse produite dans l'âme de l'auteur par la vue de cette révolution irrésistible qui marche depuis tant de siècles à travers tous les obstacles et qu'on voit encore aujourd'hui s'avancer au milieu des ruines qu'elle a faites. » Bon, on se dit, on a là un phénomène absolument extraordinaire, c'est la marche de l'égalité des conditions. Alors qu'est-ce que c'est que l'égalité des conditions par rapport à l'égalité formelle et à l'égalité réelle? Eh bien là, il y a quelque chose de massif, enfin, qui ne peut que choquer des esprits éduqués à une analyse de type marxiste, disons, ou simplement sociologique. C'est que l'égalité des conditions, c'est un simple sentiment, un état mental. Et qu'est-ce que c'est que cet état mental ou ce sentiment? C'est le sentiment que l'autre, malgré ses différences apparentes ou cachées, est fondamentalement identique à moi. Et cette identité fait que je peux me mettre à sa place, que je peux voir le monde à travers ses yeux, que je peux souffrir avec lui, c'est-à-dire éprouver de la sympathie et de la compassion. Eh bien, c'est ce sentiment dont Tocqueville nous dit que c'est la force irrésistible qui fait marcher le monde moderne. Alors, vous pensez que pour des gens qui ont été habitués à considérer que le moteur de l'histoire, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire les rapports de production, le monde matériel, voilà quelqu'un qui nous dit, n'est-ce pas, mais qui le dit avant Marx, rappelons-le quand même, qui dit que c'est un sentiment qui fait marcher tout cela. Et Tocqueville va beaucoup plus loin, puisque sa description de la démocratie en Amérique, c'est une description qu'il reconstruit entièrement à partir de ce fait générateur, dit-il, qu'est l'égalité des conditions. C'est-à-dire que tout ce qu'il observe en Amérique, les rapports hommes-femmes, le rapport à la religion, le rapport à la nature, le rapport à la politique, tout s'explique selon lui. La philosophie même spontanée des Américains, ça s'explique par ce sentiment qu'est l'égalité des conditions.
Mais cela ne veut-il pas dire, Jean-Pierre Dupuy, que c'est seulement au sein des sociétés égalitaristes, des sociétés qui obéissent à ce principe d'égalité des conditions, qu'il est possible de parler d'inégalité, car dans une société de privilèges ou de hiérarchie, où l'inégalité en quelque sorte est structurelle, il n'y a pas d'inégalité, de ces inégalités mais comme fait que vous observiez, car il n'y a pas de comparaison possible, il n'y a pas de commensurabilité possible.
Mais tout à fait, mais je ne dirais pas que l'égalité des conditions est un principe, ça n'est pas un principe, c'est un sentiment, c'est un état mental, ça n'est pas quelque chose qui est réfléchi, qui fait l'objet d'une analyse philosophique, c'est un sentiment. Mais vous avez raison de dire que, et nous avons commencé par cela, qu'égalité et inégalité, ça va ensemble. Alors la question à se poser, c'est quel est donc le contraire de l'égalité? Le contraire de l'égalité, ça n'est pas l'inégalité, puisque l'inégalité ne prend sens que par rapport à un idéal normatif qui est l'égalité. Là, je voudrais me référer à ce grand penseur, même si on peut le contester, que fut l'indianiste d'abord, puis le sociologue des temps modernes, qui s'appelait, puisqu'il est mort il y a quelques années, Louis Dumont. Louis Dumont, l'auteur de deux ouvrages majeurs, dont les titres sont tout un poème, si je peux dire. Le premier sur l'Inde, la société de caste indienne s'appelait Homo Hierarchicus, et le second, sur la société moderne, s'appelait Homo Equalis. Eh bien, Dumont nous dit, le contraire de l'égalité, ce n'est donc pas l'inégalité, c'est la hiérarchie. Mais la hiérarchie dans un sens que Dumont analyse et qui n'est certainement pas le même sens que celui que ce mot a dans l'organisation de l'armée, par exemple, où vous avez des gens qui sont au-dessus les uns des autres, les généraux sont au-dessus des colonels, qui sont au-dessus des commandants, qui sont au-dessus des capitaines, etc. La hiérarchie, c'est une organisation sociale qui fait que ceux qui sont supérieurs ne sont pas supérieurs aux autres en raison de leur qualité individuelle, leur mérite, etc. Ils sont supérieurs parce qu'ils représentent la hiérarchie de la totalité sur les éléments individuels. Et dans une société hiérarchique, comme une société d'ordre ou une société de caste. L'inégalité, ce que nous modernes, nous avons tendance à appeler l'inégalité spontanément, est la forme même de la justice. Bon, ceci est absolument fondamental. Lorsque nous parlons d'inégalité, dans un cadre égalitariste, nous désignons là quelque chose qui ne va pas, qu'il faudrait sans doute corriger. Dans une société hiérarchique, nous dit Dumont, l'inégalité, mais qu'il ne faut du coup pas appeler inégalité, mais qu'il faut appeler différence hiérarchique, c'est la forme même de la justice. Écoutez, pour rendre la chose moins abstraite, je voudrais raconter une petite anecdote qui est en fait une comparaison. Il y a quelques années, je me suis livré à une comparaison entre les rites de la vie ordinaire dans deux pays que je connais bien pour avoir vécu et dans l'un et dans l'autre, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, plus spécialement le Brésil. Et il y a une comparaison qui est très intéressante à faire, c'est sur la manière dont on se comporte dans les files d'attente ou dans les queues. La queue ou la file d'attente, c'est l'opérateur moderne par excellence de l'égalité des conditions. Hein, le premier arrivé, premier servi, on est dans l'anonymat, on ne sait pas qui est devant vous, derrière vous, etc. Bon. Et considérons le cas de la resquille. Aux États-Unis, quand quelqu'un resquille, les autres protestent et lui disent « Who do you think you are ?» Pour qui vous prenez-vous, monsieur ? Bon. C'est-à-dire qu'on met en avant un principe d'égalité. Au Brésil, lorsque quelqu'un resquille, les autres protestent, et c'est le resquilleur qui interpelle ceux qui le critiquent en disant, en portugais du Brésil, « Você sabe com quem está falando ?» C'est-à-dire, « Savez-vous bien, monsieur, à qui vous avez affaire ?» Et il décline son identité en disant, par exemple, « Je suis le chauffeur du député Intel. » C'est-à-dire que dans une société dite en transition, mais qui est encore fondamentalement hiérarchique au sens de Louis Dumont, comme la société brésilienne, on évite le conflit en... dans une situation d'anonymat abstrait, comme l'est une file d'attente, en disant qui on est dans la hiérarchie sociale. Hein. Je crois que voilà, deux rituels quotidiens qui permettent de pointer du doigt la différence entre hiérarchie et égalité-inégalité.
Mais je vous ai également entendu caractériser les civilisations américaines et brésiliennes par cette formule pour les États-Unis, égaux mais séparés, et pour le Brésil, différents mais unis.
Exactement.
C'est-à-dire en Amérique du Nord, eh bien, on est tous égaux, évidemment, mais on vit dans des quartiers différents, tandis qu'au Brésil, nous sommes bien sûr différents, les pauvres et les riches, les domestiques et les maîtres, mais ils vivent dans la même maison. Donc le lien avec le christianisme vient immédiatement à l'esprit, car après tout, le christianisme est crédité d'avoir apporté l'idée de la valeur absolue de chaque être humain, de leur incommensurabilité en tant que telle, en tant que personne individuelle, mais également de leur égalité en tant que créature de Dieu. Donc quel lien y a-t-il entre la laïcisation de cette idée chrétienne et l'égalité démocratique ?
Oh, c'est une question très difficile. Alors parlons d'abord de l'égalité au sens du christianisme tel que je le comprends, n'est-ce pas ? Un homme avait deux fils. C'est cette histoire qui faisait pleurer Charles Péguy, le fils prodigue. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et dissipa tout son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, eh bien, il n'avait plus qu'une chose à faire, c'est revenir auprès de son père. Mais il était tout honteux. « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Et pourtant, le père lui ouvre les bras et dit à ses serviteurs, « Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Mais le fils aîné, lorsqu'il apprend cela, se met en colère et dit, « Voilà tant d'années que je te sers, mon père, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, et tu fais tuer pour lui le veau gras. » Mais le père lui dit, à ce fils aîné, n'est-ce pas, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort. » Et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Je crois que c'est un des plus beaux passages de l'Évangile. C'est Luc 15, 11, 32, bien connu comme l'histoire du fils prodigue. On pourrait citer aussi la parabole des ouvriers de la 11e heure, qui sont payés exactement de la même manière que les ouvriers de la première heure, alors que les ouvriers de la première heure ont supporté toute la fatigue du jour et la chaleur. Et donc ils protestent. Et le maître répond, « Mais mon ami, je ne te fais pas tort en te payant comme les ouvriers de la 11e heure. N'es-tu pas convenu avec moi de ce salaire? Prends ce qui te revient et va-t'en. Et je veux donner aux ouvriers de la 11e heure autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Et la parabole se termine par cette phrase qui a fait tout le tour de l'Occident, bien évidemment, et du monde entier. « Ainsi les derniers sont les premiers. » Et les premiers sont les derniers. Je pense qu'avec le christianisme, on a affaire à une conception d'égalité maximaliste qui est une, qui est contre toute théorie de la justice, n'est-ce pas? Seule la miséricorde, la bonté, la charité importent.
C'est l'occasion de dire un mot des passions de l'égalité, parce qu'il faut rappeler ici les grandes conquêtes de l'égalité, égalité des droits, égalité devant la loi, qui sera peut-être pas tout à fait acquise aujourd'hui, égalité dans le suffrage, égalité sociale grâce à la politique fiscale et à la redistribution, égalité entre hommes et femmes. Mais l'égalité a suscité ou est associée à des passions qu'on appelle traditionnellement des passions mauvaises, comme le ressentiment, l'envie.
Mais là, il nous faut revenir à Tocqueville qui a senti mieux que tout autre cela. Lorsque Tocqueville nous dit que cette égalité des conditions produit une fièvre concurrentielle qui n'a jamais été vue auparavant dans une société aristocratique. Et voici ce qu'il dit, c'est le fameux chapitre 13 de la deuxième partie du volume 2, n'est-ce pas, au titre absolument significatif, pourquoi les Américains sont si inquiets au milieu de leur bien-être. Ils ont détruit les privilèges gênants de quelques-uns de leurs semblables, en détruisant l'aristocratie, la société d'ordre. Ils rencontrent la concurrence de tous. La borne a changé de forme plutôt que de place. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, avant, dans la société d'ordre, au fond, on ne se comparait pas avec les, entre les ordres, à travers, ou dans une société de caste, on ne se compare pas. Mais là, il faut évidemment citer Rousseau avant Tocqueville, pour qui le mal social, c'était l'amour propre, encore appelé comparaison. N'est-ce pas? Voir le monde à travers les yeux des autres et se voir soi-même à travers les yeux des autres. Bon. La concurrence est partout, et cette borne qui a changé de forme plutôt que de place, eh bien, c'est la concurrence des autres qui sont partout, bien évidemment. Donc, l'égalité des conditions produit la concurrence entre les êtres. Et Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, fait une distinction entre la manière dont les Français, qui sont encore dans un État qu'il appelle révolutionnaire, et les Américains, dans un État démocratique, vivent cette concurrence. Les Américains la vivent avec fair play, hein, que le meilleur gagne, et les Français, eux, refusent la concurrence, non pas par manque d'esprit concurrentiel, mais par excès d'esprit concurrentiel, n'est-ce pas? Lorsqu'on est totalement animé par ce poison qu'est l'esprit concurrentiel, une des solutions, c'est de se retirer de la concurrence en disant « moi, je suis au-dessus de cela », etc. Bon. Et c'est l'envie, la jalousie, etc. La haine impuissante.
Ce sont les mauvaises passions de l'égalité, mais dans le livre 8 de la République, Platon, critiquant le régime démocratique, qu'il caractérisait lui aussi par la passion de l'égalité, disait que le grand défaut de l'égalité, c'est que lorsqu'elle était en marche, rien ne pouvait l'arrêter. Alors, pour le meilleur, et cela a donné les grandes conquêtes de l'égalité, mais pour le pire aussi, quand la passion égalitaire s'attaque à tout ce qui dépasse un peu, évidemment, à tout ce qui est différent. Évidemment. Et est-il vrai, Jean-Pierre Dupuis, selon vous, que l'égalité soit réfractaire au monde aristocratique, ça va de soi, mais est-elle l'ennemi des talents? Est-elle l'ennemi des génies, des personnalités exceptionnelles? Conduit-elle nécessairement au nivellement de tout et donc au renoncement à la culture comme culte des singularités? Peut-être à une forme de barbarie?
Mais tout dépend de la manière, nous n'avons pas encore traité ce sujet, de la manière dont on définit normativement l'égalité. Bon. Et là, il y a des tas de distinctions à faire, puisqu'il y a des tas de théories de la justice qui essayent de répondre à cette question. Bon, la première distinction à peu près évidente, c'est égalité des moyens ou égalité des fins. Et dans l'un et l'autre cas, on bute sur des paradoxes. Si on considère que c'est l'égalité des fins, par exemple l'égalité des bonheurs, on veut que tout le monde soit heureux de la même manière. Bon.
Donc, égalité des résultats.
Égalité des résultats, mais en termes de bien-être, par exemple, de bien-être individuel. On veut que tout le monde soit et le même bien-être. Bon. Le paradoxe, c'est ce qu'on appelle en philosophie morale le paradoxe des désirs ou des besoins dispendieux. Bon, si je vous dis, moi, pour être heureux, je dois aller à l'opéra une fois par semaine, rouler en Rolls, avoir un chauffeur, séjourner dans les meilleurs hôtels et les plus chers, etc., et que c'est une condition nécessaire à mon bonheur, bon, ben, vous voyez bien qu'on a un problème. Mais inversement, si on dit que c'est l'égalité des moyens, par exemple l'égalité des revenus ou des patrimoines, on a un autre problème, c'est qu'il y a des handicaps objectifs. Il y a des gens qui sont, par exemple, handicapés physiques, handicapés mentaux, et qui ont objectivement besoin de plus pour avoir à peu près le même résultat en termes de bien-être. Bon. Une autre distinction à faire, quand on essaye de penser normativement l'égalité, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'égalité ? Je m'explique. Il y a la manière qu'on appelle en philosophie morale conséquentialiste ou disons plus simplement utilitariste. Je fais référence par exemple à la pensée de Jeremy Bentham, hein, l'un des fondateurs de l'utilitarisme. Et la maxime sera maximiser le bonheur du plus grand nombre. Enfin bon, maximiser l'utilité générale, maximiser l'intérêt commun, etc. Quelle est la place de l'égalité là-dedans ? Bien, on va définir l'intérêt général comme la somme des intérêts particuliers, chacun comptant pour un et seulement pour un. Très bien. Donc c'est une égalité. Mais le problème, le paradoxe, c'est qu'il est des circonstances dans lesquelles maximiser l'intérêt général implique que l'on sacrifie certains intérêts particuliers. Bon. Alors à ce moment-là, il y aura bien égalité dans la conception même de l'objectif à maximiser. Mais le résultat sera que certains seront sacrifiés pour le plus grand bien général. Voilà. Et bon, ça, c'est le paradoxe du conséquentialisme. Mais il y a une autre manière de faire. C'est ce qu'on appelle parfois, ou même souvent, l'égalité libérale ou libertaire, qui consiste à entourer chaque individu d'une coquille totalement imperméable, faite de droits et de libertés sacrifiables en aucun cas, n'est-ce pas ? Et à ce moment-là, chacun, évidemment, compte pour un, mais pas de la même manière que dans le conséquentialisme. Mais le problème, c'est que ce n'est pas très bon non plus, ceci, parce que ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à des compromis. Quand on fait de la politique, il faut bien, parfois, casser des œufs pour faire une omelette. Bon, et l'égalité libérale ou libertaire interdit cela. Alors, il y a une troisième solution, qui est la solution qu'a mise dans la discussion publique, le philosophe américain John Rawls. Alors, dans sa théorie de la justice.
Justement, je voudrais m'adresser à vous, vous qui avez introduit l'œuvre de Rawls en France, Jean-Pierre Dupuy, mais aussi le courant de pensée dont Rawls était l'héritier. Et autour de Rawls, dans toute l'exégèse de son œuvre, s'est posé la question de savoir, mais égalité de quoi ? Des revenus, des libertés, des chances, des parts de gâteau pour chacun. Rawls a essayé de définir le principe d'une société juste où l'égalité soit incarnée, mais incarnée avec des inégalités inévitables. Et c'est ça la force de la pensée de Rawls, qui tient à deux faits. D'une part, une théorie de la justice qui soit acceptable par tout un chacun, et puis d'autre part, la théorie des inégalités justifiées. Alors d'abord, premier point, théorie de la justice acceptable, je me réfère au fait que lorsqu'on interroge les personnes sur leur degré d'acceptation d'une société totalement égalitaire, eh bien la réponse que l'on recueille unanimement, c'est « nous n'en voulons pas ». C'est-à-dire la société totalement égalitaire, où chacun est égal à tous les autres, n'est pas une société souhaitée, auquel pour des raisons psychologiques, les personnes n'adhèrent pas. Alors comment expliquer ce décalage entre les représentations de l'égalité, de la justice qu'ont les personnes, et puis ce qu'ont essayé de faire toutes les théories de la justice, c'est-à-dire de construire des sociétés égalitaires.
Bon, vous avez raison de poser cette question avant que nous parlions de la théorie de Rawls. C'en est un préalable, je crois, effectivement. Ça, c'est la branche de la théorie économique qu'on appelle l'économie normative, qui a pensé la réponse à la question que vous posez. C'est le concept d'égalité efficace ou d'égalité inefficace. Bon, je prends un exemple extrêmement simple, mais évidemment qui est beaucoup trop simple et trop simpliste. Hein. Dans une société donnée, il y a la plupart des gens sont des bipèdes, mais certains ont le malheur d'être unijambistes. Bon, supposons qu'on ait en tête un idéal d'égalité absolue, mais comme on ne peut pas, supposons qu'il n'y ait pas de prothèse, enfin permettant de récupérer une jambe vivante, comme on ne peut pas rajouter une jambe aux unijambistes, eh bien, pour avoir l'égalité, on coupe la jambe, une jambe des bipèdes, et tout le monde est unijambiste. Bon, ce deuxième état de la société, où tout le monde est unijambiste, c'est un état égal, mais on peut dire qu'il est unanimement rejeté par rapport au premier état, à condition bien sûr de considérer qu'il n'y ait pas d'envie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des bipèdes, ça ne fasse ni chaud ni froid aux unijambistes. Bon, s'il n'y a pas d'envie, alors l'état où tout le monde est unijambiste est rejeté à l'unanimité par rapport à l'état dont on est parti. Bon, prenons un exemple moins attiré par les cheveux, bon, et beaucoup plus proche des situations économiques et politiques présentes. Imaginez que vous ayez une politique de redistribution plus ou moins forte, n'est-ce pas ? Par exemple, en jouant sur le taux d'imposition marginal ou moyen. Il peut arriver un moment où, en augmentant la redistribution dans le sens d'une égalité plus grande, vous aboutissiez à une situation qui est rejetée à l'unanimité, parce que les plus riches, vous les aurez plus imposés, donc ils ne sont pas contents, mais les plus pauvres, ils ne seront pas contents non plus, alors même qu'ils seront plus proches de l'égalité, tout simplement parce que la taille du gâteau se sera réduite, n'est-ce pas ? La métaphore du gâteau, ça c'est la tarte à la crème de l'économie vulgaire, et elle ne vaut pas grand-chose, parce que si les richesses économiques et sociales étaient un gâteau, ce serait un bien curieux gâteau, en vérité, car sa taille dépend de la manière dont il est partagé. Et les gâteaux du monde réel n'ont pas cette propriété, bien évidemment. Et ceci pourquoi ? À cause des incitations. Si vous ne payez pas assez, disons, là je vais être caricatural, bien évidemment, les médecins, les avocats, les architectes, les ingénieurs, les polytechniciens et que sais-je, eh bien ces gens ou travailleront moins ou partiront à l'étranger, et les premiers à en pâtir seront les plus pauvres. Donc, lorsque vous accroissez la politique de redistribution dans le sens d'une plus forte égalité, il arrive un moment où vous avez tout le monde contre vous. On peut dire, sans exagérer, je pense, que c'est un peu l'expérience amère qu'a fait la gauche lorsqu'elle est arrivée au pouvoir en France en 1980, entre 1980 et 1983. Elle a essayé de mettre en place une politique de redistribution extrêmement généreuse et elle s'est aperçue que tout le monde risquait de basculer.
Non, mais c'est par rapport à ce type de difficulté que Rawls introduit la notion d'inégalité justifiée.
Tout à fait. Alors le principe rawlsien, nous y venons, c'est que, un principe très général, c'est que toute inégalité est illégitime dans la mesure où elle ne contribue pas à la maximisation de celui qui est le moins bien loti. Donc pour qu'une inégalité soit considérée comme légitime, il faut qu'elle contribue à la maximisation de celui qui a le moins. Et ceci dans trois domaines absolument hiérarchisés. D'abord les libertés et les droits fondamentaux. En second, les opportunités, ce qu'on appelle les chances, au sens égalité des chances. Et uniquement en troisième niveau, subordonné aux deux premiers, donc les parts du gâteau, si c'est un gâteau, économique et social. Bon, on ne voit mal comment une inégalité des libertés ou des droits fondamentaux pourrait servir les droits de celui qui en a le moins de liberté. Donc le premier principe est un principe d'égalité des droits et des libertés. Le deuxième principe est un principe d'égalité des chances. Et ça n'est que pour les parts du gâteau économique et social que, du fait des incitations, n'est-ce pas, on doit consentir à des inégalités parce qu'elles vont contribuer à maximiser la situation de celui qui est le plus malheureux en termes d'accès au gâteau économique et social. Voilà.
Alors là, Rawls s'oppose nettement à l'idée que, au fond, pour réaliser l'égalité, on n'a qu'à agréger tous les biens, toutes les personnes, et puis partager de manière égale. On aurait là un principe qui permettrait l'égalité absolue dans une société, mais qui remettrait radicalement en cause le principe de séparation des personnes et donc le principe de liberté, d'où son caractère inacceptable. Et le paradoxe sur lequel nous concluons, c'est que l'égalité est un magnifique idéal moral, mais lorsqu'elle est réalisée de cette façon-là, eh bien elle va à l'encontre du principe moral par excellence, qui est la séparation des personnes. Nos sociétés sont égalitaristes, c'est pourquoi elles déplorent les inégalités, mais elles tâtonnent toujours lorsqu'il s'agit de savoir quelles inégalités sont justes et quelles autres sont inadmissibles. Et c'est là le paradoxe. L'égalité est un but à atteindre, mais auquel il faut sans cesse intégrer la réflexion sur les inégalités nécessaires, voire bienfaisantes. Merci Jean-Pierre Dupuis pour cette discussion.
Merci.
Merci Ghislaine David pour avoir réalisé cette émission. Vous pourrez écouter de nouveau ce dialogue sur les paradoxes moraux de l'égalité demain dimanche entre 20h et 20h30. À samedi prochain midi.